Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci de votre confiance, bienvenue si vous nous rejoignez, on est ensemble jusqu'à 9h temps universel avec dans 30 minutes évidemment la libre antenne. Nous sommes vendredi, profitez-en, c'est l'occasion pour vous tous de nous interpeller sur les sujets qui vous ont marqué tout au long de la semaine. Ce sont vos coups de cœur, vos coups de gueule sur l'actualité. Vous êtes nombreux ce matin à nous contacter du Sénégal après la publication de ce rapport explosif de la Cour des comptes sur la gestion des finances publiques sous l'ex-président Macky Sall. Des réactions également sur le sommet de l'Union africaine qui commence demain à Addis Abeba, sur la Cour constitutionnelle au Bénin qui ne s'est toujours pas prononcée sur la possibilité d'un troisième mandat pour le président Patrice Talon. Vous êtes encore nombreux à nous appeler du Gabon. Le Gabon où le général Oligui Nguema fait durer le suspense concernant sa participation à la présidentielle dans tout juste 2 mois. Voilà donc quelques-uns des sujets qui vous intéressent. Vous êtes les bienvenus. Vous nous appelez 33 9 693 693 70. La libre antenne, c'est à partir de 8h40, temps universel. Et n'oubliez pas, dans un petit quart d'heure, comme tous les vendredis, Jessica Taïeb nous rejoindra. Jessica qui nous parlera du sujet qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et après l'avoir écouté, vous aurez certainement envie de vous exprimer et de réagir vous aussi. Mais d'abord, les questions à la rédaction. Samou est avec nous, il nous appelle d'Abidjan. Bonjour Samou.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Merci de nous écouter dans la capitale économique ivoirienne. Vous avez des questions après la décision de Donald Trump de démanteler l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international.
Oui, Juan, je voudrais savoir quels seront les pays les plus impactés par cette décision et quelles en seront les conséquences.
Ah, en tout cas, je peux vous dire d'ores et déjà que l'ancienne directrice de l'USAID sous Joe Biden a déclaré que cette décision était l'une des pires et des plus coûteuses bourdes de politique étrangère de l'histoire américaine. Bonjour Charlotte Cosset.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, journaliste au service économie de RFI. L'USAID, rappelons-le, c'est l'aide publique au développement américain.
C'est cela, et les États-Unis sont les premiers bailleurs au monde. En 2024, un budget d'environ 40 milliards de dollars. Et pour vous donner une idée, Juan, Samou, le budget de la Centrafrique cette année, c'est 550 millions de dollars. Celui de la RDC, 17 milliards de dollars.
C'est donc énorme. Une aide qui a donc été gelée par Donald Trump il y a quelques semaines pour une durée de 3 mois. Le temps, a-t-il dit, de passer en revue les aides qui sont ainsi distribuées dans le monde et s'assurer qu'elles sont conformes aux priorités présidentielles? Quels seront les pays les plus impactés et quels en seront les conséquences?
Alors si l'on regarde les statistiques de 2023 par région dans le monde, c'est l'Europe qui est la première à recevoir l'aide extérieure américaine. Mais attention, en réalité, cette aide va quasiment uniquement à l'Ukraine, plus de 17 milliards de dollars. Alors vient ensuite l'Afrique subsaharienne, plus de 15 milliards de dollars. Les bénéficiaires en tête, les pays anglophones, l'Éthiopie, la Somalie, le Nigeria. En quatrième position, on retrouve la RDC avec près d'un milliard de dollars. Alors dire quels seront les pays les plus impactés, c'est encore difficile à évaluer car on ne sait pas encore où se feront les coupes ni dans quel secteur.
Ouais, difficile donc d'y voir clair. En tout cas, certains pays sont sans doute plus exposés que d'autres.
Évidemment, disons que les États aux économies les plus fragiles risquent de ressentir plus durement les coupes de ces aides car dans bien des États, l'aide américaine vient combler des manques dans les budgets nationaux, notamment dans le domaine de la santé, de la sécurité alimentaire ou de l'éducation. Et dans ces pays les plus pauvres, si coupe il y a, le manque se fera donc durement sentir pour les populations. Alors, on sort pas de boule de cristal, hein, Juan, ce matin, mais déjà, on peut envisager que les programmes concernant les populations LGBT, la lutte contre le VIH-Sida ou encore les programmes d'adaptation au changement climatique pourraient être rabotés.
Ouais, ce qui est sûr, et on en parle sur RFI depuis quelques jours, c'est que c'est la suspension de l'aide américaine. Elle a déjà des conséquences, elle se fait déjà ressentir sur le terrain.
Évidemment, sur le terrain, il y a déjà des dizaines, peut-être même des centaines de programmes qui ont été suspendus. Un certain nombre d'aides ne parviennent plus aux bénéficiaires. La semaine dernière, je parlais avec une organisation congolaise qui m'expliquait être autorisée à distribuer, par exemple, l'aide alimentaire d'urgence, mais ne plus avoir le droit de distribuer semences et outils agricoles aux déplacés. Donc on imagine bien la difficulté dans un contexte pareil. Les ONG internationales et nationales ont dû mettre au chômage une partie de leurs équipes. équipes, et évidemment, faute de budget, et des conséquences très dures, particulièrement dans les zones de conflit où des millions de personnes déplacées dépendent de ces aides.
Allez, Samou, vous avez une dernière question ?
Est-ce qu'il n'y a pas de recours pour contraindre le président américain à revenir sur sa décision ?
Alors, il y a des recours, Samou, actuellement auprès de la justice américaine. On attend de voir ce que ça va donner. Cependant, dans les faits, le démantèlement de l'organisation de l'USAID semble amorcé. Les personnels en mission se sont vus ordonner d'organiser leur retour chez eux. Au siège, leurs accès ont été suspendus. Et du côté des bénéficiaires, difficile de mettre la pression sur le gouvernement américain. Par exemple, je parlais encore aussi avec d'autres ONG la semaine dernière, l'administration leur envoie des avertissements pour ne pas communiquer sur les événements en cours.
À suivre. En tout cas, cette décision de Donald Trump fait réagir. Vous avez envie de prendre la parole. La libre antenne, c'est dans moins d'une demi-heure. Merci beaucoup, Charlotte Cosset. Samou, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, bonne mission à vous, Juan.
Eh bien, oui, on va faire en sorte qu'elle soit bonne.
Merci, Samou.
Et merci de vos encouragements. Bonne journée à Abidjan, 8h16, en temps universel. Laura Martel, journaliste au service France de RFI, nous a rejoint. Bonjour, Laura.
Bonjour à tous.
Vous suivez le procès actuellement de Nicolas Sarkozy. Vous avez suivi le précédent procès concernant également toujours l'ancien président français. Et on a justement des questions concernant Nicolas Sarkozy. Bonjour, Ferré.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à l'abbé, nous vous écoutons avec Laura Martel.
Effectivement, Juan. L'ancien président Nicolas Sarkozy, qui porte un bracelet électronique depuis quelques jours, a annoncé mettre ses activités entre parenthèses. Alors, j'aimerais savoir, que faut-il comprendre par ces déclarations et quelles restrictions lui sont imposées avec ses bracelets électroniques ?
Alors, Laura Martel, ça fait une semaine, tout juste, que Nicolas Sarkozy porte un bracelet électronique à la cheville, ce qui est une première pour un ancien chef d'État français. Rappelez-nous pourquoi il porte ce bracelet.
Nicolas Sarkozy le rappelle lui-même dans sa déclaration. C'est lié en fait à la condamnation définitive dans l'affaire dite des écoutes ou l'affaire Bismuth, pour laquelle donc il a été condamné en décembre 2024 pour corruption et trafic d'influence à 3 ans de prison, dont un ferme. Alors ce qui est intéressant, c'est que déjà dans le tweet de Nicolas Sarkozy, il donne une information. Il nous dit « J'ai volontairement renoncé à certains des aménagements que la loi m'offrait pour ne pas donner le sentiment de solliciter le moindre privilège. » Et là, en fait, il fait référence au fait qu'il aurait pu demander en fait une liberté conditionnelle puisqu'il a eu 70 ans le 28 janvier. Et il faut savoir qu'en France, à partir de 70 ans, vous n'avez pas besoin d'attendre la moitié de votre peine pour demander une liberté conditionnelle. Donc, il aurait pu demander que ce bracelet lui a ôté en vertu de son âge, ce qu'il n'a pas fait, nous dit-il, pour ne pas donner un sentiment de deux poids deux mesures sur les justiciables. Il nous dit aussi, donc, j'ai décidé de mettre entre parenthèses mes activités publiques d'ancien président. Alors là, on note une décision de se mettre en retrait. Il faut noter quand même que c'est le premier président condamné pour corruption en France. On lit entre les lignes une certaine gêne liée à cette condamnation, forcément, une certaine humiliation aussi, on imagine, avec le fait pour un ex-président de porter un bracelet électronique. Bracelet d'ailleurs, vous le disiez, qu'on a vu apparaître lundi à l'audience pour la première fois. Bracelet plutôt discret, on ne savait pas au début si c'était cheville gauche, cheville droite.
Oui.
Il a fallu qu'il s'asseye pour qu'on voit un peu le renflement sous la chaussette. Alors, entre parenthèses, c'est pas très précis. Évidemment, il y a toutes les cérémonies, on pense à ça en premier, toutes ces cérémonies nationales, le 14 juillet, les hommages aux victimes, les panthéonisations par exemple, où les anciens présidents sont conviés, comme François Hollande. Donc ça sera mis entre parenthèses. Par contre, là, on n'a pas forcément de précision, c'est que les ex-chefs d'État bénéficient de certains avantages. Par exemple, ils ont 3 collaborateurs à disposition, dont un agent de sécurité, des bureaux, des frais de déplacement ou de réception, si c'est dans le cadre de leur fonction de représentation d'anciens présidents. Alors, est-ce qu'il va se séparer de son agent de sécurité ? On peut supposer que non, mais peut-être, effectivement, geler certains de ses avantages.
Nicolas Sarkozy est assigné à domicile.
Oui.
Il a des horaires bien précis à respecter.
Eh bien, c'est ça. C'est un peu comme un couvre-feu, on va dire. Il est censé pouvoir quitter son domicile, en fait, qu'entre 8h et 20h. Alors, ce qui est un peu étendu, les jours d'audience, parce que les audiences peuvent un peu durer, comme on l'a constaté.
Les lundis, mercredis et jeudi.
Exactement. Donc là, 21h30, il a un peu plus de temps. Et le principe du bracelet, c'est c'est qu'il y a un périmètre défini. S'il enfreint ce périmètre en dehors de ses autorisations de sortie,
il y a une alarme qui se déclenche.
Il y a une alarme et il y a un rapport qui est fait au juge d'application des peines. Et le juge d'application des peines qui doit aussi dire s'il peut ou pas autoriser des sorties en région à l'étranger. Et puis pour le reste, il nous dit qu'il continuera à exercer sa vie professionnelle. Là, il parle de son métier d'avocat. Et d'ailleurs, on le voit bien à l'audience qu'il n'a pas perdu de sa verve. À noter par contre qu'il ne mentionne pas une chose, c'est qu'il avait été condamné à 3 ans de privation de droits civiques et donc qu'il ne pourra pas, par exemple, voter à la prochaine élection présidentielle.
Merci pour cette précision. Ferré, une dernière question, me dit-on.
Oui, effectivement. J'aimerais savoir encore pourquoi Nicolas a déposé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Alors, Nicolas Sarkozy, Laura Martel, effectivement, j'ai découvert ça. En tout cas, c'est lui qui l'annonce. Il veut saisir la Cour européenne des droits de l'homme.
Oui, alors, il avait dit au moment de sa condamnation, en fait, il peut le faire sous un délai de 4 mois, comme tout justiciable, en fait, qui estime avoir été victime d'une injustice, c'est ce que lui dit, et que ses droits fondamentaux ont été violés. Donc, lui, il peut totalement faire ce pourvoi, puisqu'il a épuisé en fait tous les recours qu'il y avait en France, donc ça c'est ultime. Alors ce qu'il faut noter, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme ne peut pas casser le jugement qu'a fait la France. Néanmoins, elle peut considérer que ses droits fondamentaux, par exemple son droit à la vie privée, puisqu'il s'agissait d'affaires d'écoute entre lui et son avocat, ou que son droit à un procès équitable a été bafoué, à ce moment-là, eh bien, il aura ce qu'on appelle une satisfaction équitable. En gros, c'est finalement une somme d'argent pour compenser le fait que ses droits ont été violés. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la CEDH, sur la base, si la CEDH donc condamne l'État, le président peut demander un réexamen de son affaire. Bon, il faut dire, dans ce cas-là, c'est pas forcément très pertinent, puisque le tant que la CEDH statue, quelle que soit sa décision, il aura fini de porter son bracelet électronique.
Il doit le porter pendant 12 mois.
Vraisemblablement, ça ne portera pas. Et une fois que la peine a déjà été effectuée, l'opportunité d'un réexamen n'est pas forcément très pertinente. Par contre, juste, il peut effectivement demander des dommages et intérêts à la France. Et là, symboliquement, ça serait extrêmement fort d'avoir un ex-président qui fait condamner son pays et qui, en plus, reçoit des dommages et intérêts pour le fait d'avoir vu ses droits fondamentaux violés.
Bon, on suivra tout ça. Merci infiniment, Laura Martel, pour toutes ces explications. Ferré, êtes-vous comblé? A-t-on répondu à vos questions?
Effectivement, je suis satisfait.
Bonne journée à l'abbé, alors. Merci de nous écouter en Guinée. À très vite, Laura Martel. Journaliste au service France de RFI. Des questions maintenant sur la situation dans le sud du Liban, à la frontière avec Israël. Bonjour, Souleymane.
Bonjour Juan, bonjour à toute l'équipe de l'appel sur l'actualité.
Vous êtes au Tchad, à N'Djamena, dans la capitale. On vous écoute. Allô, Souleymane.
Oui, je suis là.
Ah, on vous écoute, allez-y, pardon.
Israël envisagerait de repousser une nouvelle fois le retrait de ses troupes du sud du Liban.
Oui.
Alors Juan, j'aimerais savoir quelles pourraient être les raisons évoqué par Israël pour justifier cette décision.
Et d'autant que l'armée israélienne aurait déjà dû se retirer du sud Liban le 26 janvier. Bonjour Adel Bakawan.
Bonjour.
Chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, spécialiste du Moyen-Orient. L'armée israélienne a donc eu un délai supplémentaire pour procéder au retrait de ses troupes. Ce délai expire le 18 février, donc mardi prochain. Et visiblement, Israël réclame une prolongation.
Israël réclame une prolongation pour rester notamment dans 5 positions dans le sud du Liban, parce que tout simplement, je ne justifie pas, hein, j'explique.
Oui, oui.
Israël est dans une perspective sécuritaire globale dans la région, à la fois au Liban, à Gaza, Cisjordanie, la Syrie. Le Yémen et l'Irak est désormais en perspective. Et donc, dans cette perspective de sécurité globale et dans cette grande transformation du Moyen-Orient en cours et abordée régulièrement par Benjamin Netanyahu, rien n'est pour le moment définitif, rien n'est réglé d'une manière définitive. Et dans ce cadre-là, oui, Israël souhaite rester pour le moment encore au sud du Liban.
Souhaite, quelle sera la réponse du président libanais ou même des Américains? On se souvient que les Américains, ce sont eux qui avaient mis le Liban devant le fait accompli en disant « Bon bah écoutez, effectivement, les troupes israéliennes doivent se retirer le 26 janvier. Allez, on prolonge jusqu'au 18 février. » Que feront les Américains?
Écoutez, le gouvernement libanais, à la fois le président, le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, d'une manière consensuelle, pour une fois, hein, le consensus est rare au Liban, ont réclamé à la fois aux Américains et aux Israéliens de respecter l'accord, de respecter le délai et que les troupes israéliennes doivent absolument et sans aucune négociation se retirer, surtout en ce moment, et c'est leur justification. Hein. Ils ont un gouvernement pro-américain, pro-européen, qui n'est pas en guerre contre Israël et qui est en train de contrôler, orienter, encadrer le Hezbollah à la fois politiquement et militairement. Bon, et dans cette démarche-là, pardonnez-moi juste une dernière phrase, dans cette démarche-là, le fait qu'Israël reste militairement dans le sud du Liban, il n'y est pas. Ça n'aide pas le nouveau gouvernement libanais dans sa démarche à savoir assiéger le Hezbollah et l'encadrer et l'orienter.
Bon, on suivra évidemment la situation à la frontière avec Israël dans le sud du Liban mardi. On verra si les troupes israéliennes se retirent conformément à l'accord. Merci infiniment à Adel Bakawan, chercheur associé à l'IFRI, spécialiste du Moyen-Orient. Il est 9h26 à Paris. Dans un quart d'heure, la Libre Antenne. Vos réactions sur l'actualité de votre choix. Et peut-être aurez-vous envie de réagir au sujet qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Un œil sur les réseaux. Bonjour Jessica Taïeb.
Bonjour Juan.
Ces derniers jours, difficile de parcourir Facebook, X ou TikTok sans tomber sur l'affaire dite des boulettes pour fesses. Alors c'est un sujet qui peut sembler léger, un sujet qui peut prêter à sourire, mais il s'agit d'un vrai problème de santé qui est pris très au sérieux par les autorités sénégalaises.
Ali Masso, une célèbre TikToker sénégalaise suivie par plus de 200 000 abonnés, a été condamnée à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme et 500 000 francs CFA d'amende. L'influenceuse vendait en fait sur TikTok et sur le marché de Pikine, en banlieue de Dakar, des cosmétiques censés faire gonfler le volume des fesses. Et elle a été reconnue coupable avec d'autres prévenus, notamment de fabrication et mise en vente illégale de produits pharmaceutiques dangereux, mettant en péril la santé publique. Une peine qui a été prononcée par le tribunal de Pékin le 7 février dernier. Et depuis, le sujet continue à buzzer sur les réseaux sociaux. On peut voir notamment des dizaines de vidéos de femmes qui racontent avoir des poussées de boutons ou même des problèmes cardiaques après l'utilisation de ces produits. Des accusations d'ailleurs qu'Alima Fall a rejetées lors de son procès. Mais elle a quand même avoué qu'elle n'avait aucune formation spécifique de pharmacienne, ce qui ne l'a pas empêchée de produire du contenu pour vendre des pommades et des suppositoires avec cette promesse miracle, quelques jours seulement pour transformer son corps et obtenir des courbes généreuses.
Ouais, cette affaire n'a pas laissé indifférents les internautes. La plupart saluent le verdict.
Et oui, on sent bien le ras-le-bol de certains dans les commentaires. Je vous en lis quelques-uns, je cite. « J'en ai marre de ces vendeurs de cosmétiques qui exploitent les insécurités des gens. Ces produits sont des véritables poison pour la peau et la santé. » Et celui-ci qui aurait aimé un verdict encore plus sévère. Seulement 6 mois ferme, j'aurais voulu quelques années de plus, ça lui aurait servi de leçon. Et cet internaute qui aimerait que la lutte aille plus loin. Les autres États africains doivent s'inspirer de ce cas. Il y a encore beaucoup à faire, notamment sur les crèmes blanchissantes. Et puis c'est vrai que sur TikTok, on peut trouver toutes sortes de produits et le phénomène semble prendre de l'ampleur. Il suffit de rester quelques minutes sur l'application pour tomber sur des vidéos en direct qui vous promettent une peau plus claire ou un corps différent grâce à des cosmétiques dont on ne connaît évidemment ni la composition ni la provenance.
Ouais, d'ailleurs, vous qui nous écoutez, si vous utilisez TikTok, faites le test et dites-nous si vous tombez effectivement sur ce genre de vidéos. Je rappelle que l'OMS déconseille évidemment le blanchiment de la peau. L'OMS parle d'un vrai problème de santé mondiale. Pour revenir, Jessica, en quelques mots à cette condamnation, la condamnation d'Ali Masso, la décision du juge ne fait pas l'unanimité sur les réseaux sociaux.
Et non, sur X et sur Facebook, j'ai aussi lu beaucoup de personnes qui s'interrogent sur l'utilité d'un tel procès. Je vous partage quelques réactions. Au risque de ramer à contre-courant, je ne suis pas d'accord avec l'arrestation d'Alima et des autres vendeurs. Que gagne-t-on si c'est pour arrêter la vente de ce type de produit? C'est loupé. Et celui-ci qui semble déçu, s'attaquer à des cibles plutôt que de traiter le fond du problème, ça commence à être une habitude. Et on termine avec cette question. Ali Mafal était coupable. Oui, mais que fait-on pour éduquer ceux qui achètent ce genre de produits ?
Dossier à suivre. On verra notamment si les avocats d'Ali Masso et des autres prévenus décident de faire appel. Un œil sur les réseaux. Merci Jessica Taïeb. À réécouter évidemment sur l'application RFI Pure Radio et à voir en images sur notre chaîne, la chaîne WhatsApp de l'émission. RFI, appel sur l'actualité.